Alors j'aimerais lire un texte qui fait écho au texte qu'a lu Karine tout à l'heure, dans 1 Jean, à nouveau, un texte sur l'amour aussi, pour commencer, 1 Jean 4, 9 et 10. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Et un deuxième texte, un court verset, s'il n'est pas affiché, ce n'est pas grave. Si vous l'avez, oui, Romains 1, 18. Tu peux baisser un peu parce que les questions suivantes, c'est pour tout à l'heure. Merci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors là, on n'est plus dans le même registre. Et effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir à cette opposition flagrante entre amour et colère. Comment est-ce possible? Est-ce possible que ce Dieu qui nous aime puisse en effet être en colère contre toute impiété et toute injustice? Est-il possible qu'il ait fallu apaiser la colère de Dieu? La lecture de ces deux textes introduit bien une tension entre l'amour et la colère de Dieu, entre l'amour de Dieu et sa justice. Est-ce compatible? Vous avez sans doute déjà entendu cet argument contre la foi chrétienne. Je doute de l'existence d'un Dieu qui exige du sang pour apaiser sa colère. Il a fallu que quelqu'un meure pour que le Dieu chrétien nous pardonne. Pourquoi ne peut-il pas simplement nous pardonner? En plus, il y a tellement d'endroits dans la Bible où l'on voit Dieu ordonner que des gens soient exécutés. La religion chrétienne met la croix au centre de tout. Un objet de supplice est érigé en signe de reconnaissance. Elle est le symbole incontournable de toutes les églises chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes. Et en visitant plusieurs églises catholiques pendant ces vacances, j'ai encore été frappé par l'omniprésence dans l'art religieux, non seulement de la croix, bien sûr, et de Christ en croix, mais aussi de tout ce qui tourne autour de la souffrance, de l'exaltation de la souffrance des martyrs. Et c'est vrai que le christianisme paraît à certains comme une religion qui exalte la mort, une religion morbide. Dans notre culture occidentale moderne, le jugement divin est bien la doctrine la plus choquante du christianisme. Et quand nos amis nous posent des questions sur ce point, nous avons bien du mal à répondre. Nous préférons botter en touche. Alors, il y a ceux qui disent que, au fond, ce jugement de Dieu appartient au contexte de l'Ancien Testament. Oui, mais on sait bien qu'il y a des textes très choquants dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui lisent, qui suivent les lectures du guide pour la lecture de la Bible, il y a l'histoire dramatique de Ananias et Saphira, qu'on a lu cette semaine. Alors, c'est vrai que nos contemporains aiment bien faire du tri, et nous aussi d'ailleurs, hein, entre ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Dans la Bible, l'idée de l'amour du prochain, c'est très bien, les belles histoires aussi de Jésus. Mais au fond, je pense que l'idée de l'amour de Dieu, que nous avons hérité de notre culture, est au centre d'un grand malentendu. Et c'est ce que je voudrais tenter d'éclaircir ce matin, d'essayer d'éclaircir ce matin. C'est une difficulté bien réelle, car la Bible présente bien à la fois l'amour de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et bien aussi le cavalier de l'Apocalypse qui frappera les nations rebelles. Alors, avant de montrer comment amour et justice peuvent se concilier, comment la colère peut être compatible avec l'amour, je voudrais d'abord évoquer un problème auquel on ne pense pas souvent et qui est sans doute à la racine de ce malentendu. Pourquoi est-ce que nous avons du mal à accepter ces choses-là? Quelle est notre référence? Et à partir de quoi nous prenons position pour telle ou telle idée, pour tel ou tel concept? Est-ce que nous avons des principes que nous acceptons de façon implicite? Je pense qu'il faut d'abord réfléchir et essayer de comprendre comment nous nous situons pour aborder cette question de l'amour de Dieu, de sa colère, de sa justice, du châtiment. À quoi nous nous référons? Est-ce que nous avons des principes au nom desquels nous prenons position sur cette question? Avons-nous des a priori? Un sondage récent fait en Amérique montre que 80% des Américains sont d'accord avec la phrase suivante. Et je pense que si on faisait le sondage ici, ce serait pareil, ou très proche. La phrase était la suivante. Un individu devrait parvenir à ses propres convictions religieuses, sans l'aide d'une église ou d'une synagogue. Un individu devrait parvenir à ses propres convictions religieuses sans l'aide d'une église, d'une synagogue, et nous en France on ajouterait, ou d'une mosquée. Au fond, notre culture occidentale considère que la vérité morale est relative à la conscience individuelle. On parle de relativisme moral. Nous n'avons aucun problème avec un Dieu qui nous aime, qui nous soutient, quelle que soit la manière dont nous vivons. De toute façon, Dieu nous aime. En revanche, nous nous opposons fortement à l'idée d'un Dieu qui punirait les gens pour des croyances qui seraient fausses. Ça nous heurte profondément. C.S. Lewis, ce grand écrivain chrétien du début du XXe siècle, a montré comment les hommes étaient passés dans l'histoire d'une conception dans laquelle il existait un ordre moral inscrit dans la structure de l'univers, à l'idée selon laquelle il n'y a plus de réalité suprême, il n'y a plus de révélation. Et de même que par la science et la technique, l'homme a réussi petit à petit à modeler son environnement, à le maîtriser, bon, bien imparfaitement, parce que l'environnement, le maîtriser, voilà, justement, on est en plein dedans, hein. Comment faire pour le maîtriser et pour ne pas le détruire et le dénaturer complètement? Mais voilà, par la technique et la science, on espère pouvoir modeler notre environnement physique. On veut aussi remodeler l'environnement métaphysique. C'est-à-dire décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, vous avez sans doute des tas d'idées qui vous arrivent et dont on parlera aussi dans un instant. Alors on a cet a priori maintenant. C'est que la seule réalité, c'est celle qui est objective, celle que nous pouvons voir, celle sur laquelle nous pouvons expérimenter par la science. Voilà, ça c'est la réalité. Et il n'y en a pas d'autre. Nous sommes maîtres de notre destin. Rien ne peut nous dicter notre conduite. Rien ne peut nous imposer nos choix. Mais c'est un a priori. Et il n'a rien de raisonnable. Il n'a rien, en tout cas, de plus raisonnable que d'autres a priori. C'est là-dessus que nous construisons notre système de pensée. Ça nous convient bien, simplement, cet a priori. Nous sommes au centre de l'univers et c'est nous qui décidons de tout. Et tout est relatif. Alors, il faudra revenir là-dessus. Je ne veux pas développer davantage cette question, mais c'est quand même une question fondamentale, à mon avis. ce qui nous permet de retenir dans la Bible ce qui nous convient et d'écarter ce qui ne nous convient pas. Alors une petite remarque. Nous sommes dans notre civilisation et culture occidentale, d'inspiration chrétienne, mais bon, d'inspiration seulement. Mais il y a d'autres cultures autour de nous. Et on ne pense pas toujours que d'autres et les autres ne pensent pas comme nous. Ils n'ont pas cette même idée-là. Sur la planète, il y a d'autres cultures, évidemment. Pensons à l'hindouisme, au bouddhisme, sans parler de l'islam, bien sûr, que nous connaissons peut-être mieux. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, Dieu n'est pas personnel. Il y a un cycle de réincarnation, surtout dans l'hindouisme. Mais ces réincarnations ne vont pas toujours vers le haut, vers le meilleur. La vie d'un homme dépend de ses vies antérieures. Il y a une justice dans un sens. Il n'y a pas du tout cette notion du Dieu amour. Il y a la notion du mérite. Nous méritons ce que nous avons fait. Il y a des lois et il faut se conformer à ces lois. Dans l'islam et dans le judaïsme aussi, Dieu n'est pas un vieillard inoffensif et lointain, mais c'est bien celui à qui nous devons rendre des comptes. Alors, une autre remarque là-dessus. Je disais qu'effectivement, notre culture occidentale reposait sur des valeurs chrétiennes, on va dire. Mais voilà, ces valeurs chrétiennes et ces principes, je vais appeler ça des principes, ces principes bibliques au départ sont devenus des principes laïques. Je vais vous donner un exemple. Nos a priori sont sans doute très nobles. Voilà, l'idée de l'amour, l'idée du partage, etc. Mais en s'affranchissant de ses racines chrétiennes, notre culture occidentale a un petit peu coupé la tête, voilà, de tous ces principes-là. Donc nous les gardons, mais nous avons éliminé Dieu. Alors on a des grands principes, je vais vous en citer un, la laïcité. Ça c'est un grand principe, et on en reparlera une autre fois, là c'est pareil, je ne vais pas développer, mais voilà, c'est un grand principe sur lequel repose tout notre système éducatif et même au-delà. Je vous en donne un autre. C'est l'acceptation de la différence. Qui est contre? Ah oui, il faut accepter la différence. Évidemment. C'est un très bon principe. Et vous savez contre quoi il faut lutter à ce moment-là? Contre la discrimination. Dans notre société, on lutte contre la discrimination. Et on a raison. Rappelons-nous des combats de chrétiens qui ont beaucoup mérité dans ces combats acharnés contre l'esclavage, les combats pour l'abolition de l'esclavage, c'était bien la lutte contre la discrimination. Donc c'est des choses très belles, très nobles et très vraies. Mais je prendrai le risque d'évoquer un sujet qui fâche, parce que c'est aussi au nom de la discrimination, bien sûr, de la non-discrimination, et donc de l'acceptation de la différence, qu'en France, on a légalisé le mariage entre personnes de même sexe. Et comme d'autres pays d'ailleurs, beaucoup d'autres pays. Et c'est aussi au nom de l'accueil de la différence que l'Église protestante unie de France a accepté de faire une bénédiction religieuse pour de tels mariages. Où est le mal? Y a-t-il un problème? L'accueil des autres différents de nous dans la communauté, est-ce que ça pose un problème? Alors, voilà, là on sait que d'autres églises ont réagi et que d'autres églises ne sont pas d'accord avec cette prise de position. Et je vais juste lire la réaction de notre union d'églises, l'Union des Églises évangéliques libres, qui disait, au moment de son synode, l'Union des Églises évangéliques libres regrette cette décision, donc de donner l'occasion, la possibilité d'une bénédiction au mariage homosexuel. Regrette cette décision qui nous semble procéder d'une dilution de la compréhension de la bénédiction et sa dissociation du bien défini par Dieu. Si bénir, c'est poser un signe de l'amour de Dieu, peut-on pour autant le dissocier du bien, du projet de Dieu pour les hommes et les femmes? Au fond, l'acceptation de l'autre comme différent de moi est un principe biblique, tout autant que d'autres principes bibliques importants, comme par exemple la création de l'être humain, mâle et femelle, à qui Dieu donne vocation à fonder une famille. Donc voilà, on érige dans notre civilisation, dans notre culture occidentale, qui s'est affranchie de la référence Dieu, on érige au fond certains principes plus que d'autres, on met en avant certains principes plus que d'autres, et c'est sans doute par rapport à ça que notre raisonnement est souvent faussé. J'en viens maintenant à la question qui nous intéresse, ou la deuxième question si vous voulez, concernant l'amour et la colère. Quel est le contraire de l'amour? Voilà, deuxième question que je vous pose. Quel est le contraire de l'amour? La haine. La haine. La haine, me direz-vous, bien sûr. Mais je vous suggère une autre idée. L'indifférence. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Peut-être. C'est pas pareil. Mais est-ce que c'est pas aussi le contraire de l'amour? Quand nous sommes indifférents à la souffrance de l'autre, est-ce que nous l'aimons? Sur la côte bretonne, en début du mois de juillet, je crois, me souvenir, un homme s'est jeté à l'eau dans une mer agitée et a pu ramener à terre 4 ados qui s'étaient éloignés et qui étaient en train de se noyer. Il aurait pu rester indifférent à ce danger. Non, il s'est jeté à l'eau. Il a manifesté ainsi de l'amour pour ces personnes qui se noyaient. Si un petit enfant, votre enfant ou votre neveu, se dirige vers un barbecue allumé, ce qui a pu se passer pendant ces vacances, hein, pendant cet été, vous vous précipiterez pour le protéger. Mais vous savez comment sont les petits, ils reviennent une deuxième fois. S'il revient, ben vous vous précipiterez à nouveau, puis vous lui expliquerez, il ne faut pas y toucher, etc. Bon. S'il récidive, vous allez vous fâcher. Peut-être pour lui faire comprendre le danger qui court, vous allez lui donner une petite tape sur la main, peut-être. Ou plus, comme vous voulez, ce n'est pas moi qui vais décider. Mais pourquoi vous fâchez? Mais c'est légitime. C'est légitime. C'est une certaine forme de colère, parce que vous savez qu'il court un danger. À moins que vous soyez indifférent, qu'il se brûle. Et peut-être que parfois, il vaut mieux qu'il se brûle pour avoir bien compris, mais on ne va peut-être pas courir le risque. Hein. Je prends un autre exemple. Peut-on imaginer qu'une femme ne soit pas blessée en apprenant que son mari la trompe? Ou inversement, qu'un mari ne soit pas blessé en apprenant que sa femme le trompe? Peut-on imaginer que ces personnes-là ne soient pas en colère? À moins qu'elles n'aiment plus leur conjoint. Si vous aimez quelqu'un, un enfant, un ami, et que vous voyez quelqu'un le faire souffrir, ça peut être dans le cadre professionnel, ou dans le cadre d'une relation qui ne lui fait pas du bien, cela peut vous rendre furieux. Vous intervenez, si possible, pour le défendre. Mais parfois, c'est la personne que vous aimez qui se fait elle-même du mal, qui se fait du mal à elle-même, parce qu'elle boit trop, parce qu'elle se drogue, ou parce qu'elle rumine des pensées morbides. Ne va-t-on pas tout faire pour essayer de l'aider, ou la soustraire à de mauvaises influences? Au fond, dans une relation humaine, la colère peut traduire un amour véritable. Elle peut être un avertissement salutaire, un appel à un changement de conduite. Et c'est bien cet appel à un changement de conduite que nous trouvons dans la Bible. La colère de Dieu à l'égard de son peuple d'Israël, celle qu'expriment les prophètes, eh bien cet appel à un changement de conduite, à un retour à Dieu. La punition du peuple, la destruction du temple, l'exil sont des conséquences dramatiques, certes. Mais ce sont des conséquences de l'abandon de Dieu par le peuple qui est devenu idolâtre, qui a trahi l'alliance du Dieu de ses pères. Alors non, la colère de Dieu n'est pas la manifestation de son humeur grincheuse. Mais oui, c'est sa détermination à s'opposer au cancer qui ronge la race humaine qu'il aime. C'est ainsi qu'il faut lire les passages qui nous posent problème, à nous les Occidentaux, qui nous croyons supérieurs aux autres. La Bible présente bien un Dieu qui aime les hommes, qui veut les protéger du mal. Et en évoquant justement l'idolâtrie, l'apôtre Paul a ces propos très durs que j'ai lus tout à l'heure dans Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. Et un autre texte dans les psaumes, l'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Dieu sait le risque que nous courons, le risque que court l'humanité si elle se laisse dominer par le mal. Il connaît la violence dont l'homme est capable, si ce sont les forces du mal qui l'emportent. Et au cours de l'histoire, nous avons bien sûr vu beaucoup d'exemples de cette situation-là. Autour de nous, nous voyons des exemples de la situation, de situations dans lesquelles ce sont effectivement les forces du mal qui l'emportent, parce que Dieu a été abandonné. L'Évangile est tout autre chose qu'une morale à respecter. Être chrétien, ce n'est pas pratiquer une religion avec un code à suivre. Si tu fais ceci, tu auras cela. Ça n'a rien à voir avec la pratique des cinq piliers de l'islam qu'il faut suivre pour obtenir le salut. L'Évangile nous entraîne dans une alliance, une relation dans laquelle Dieu s'est engagé et dans laquelle il nous invite à entrer. Parce que premièrement, nous sommes ses créatures. Et deuxièmement, il a donné son propre Fils pour expier nos fautes. C'est cet acte gratuit, cet acte d'amour gratuit de Dieu qu'on appelle la grâce et qui appelle une réponse de notre part. Ne pas y répondre nous condamne à rester en dehors de cette relation, de nous en exclure. Et l'enfer n'est pas autre chose que cette exclusion de la présence aimante de Dieu. Oui, Dieu nous aime. Oui, il aime le genre humain. Mais oui, il sait que pour nous libérer du péché et de notre illusion de maîtriser notre destin, il faut parfois frapper fort. Alors, ouvrons notre cœur à cet amour divin. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. Revenons à la croix, qui est le lieu où s'exprime si parfaitement l'amour et la justice de Dieu. Amen.